On va lire ce matin les versets 17 à 20. 17 à 20. Alors, on est, pour ceux qui ne nous suivent pas, qui ne viennent pas régulièrement, on est en train de faire une série sur des messages sur le livre, dans le livre de Ruth. Et ce matin, on va regarder ensemble les versets 17 à 20 qui disent « Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? » Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. » Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois ce matin, nous reconnaissons que nous avons besoin de ton aide pour que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs. Seigneur, tu connais les besoins de chaque personne ici présente ce matin. Seigneur, nous avons tous déjeuné. Et Seigneur, ce matin, nous voulons recevoir aussi cette nourriture spirituelle que tu en réserves pour chacun de nous. Tu nous dis que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur, que les oreilles de notre cœur soient ouvertes, afin que ce que nous entendrons, eh bien, ne demeure pas lettre morte, mais qu'il puisse produire du fruit, et du fruit en abondance. Bénis, Seigneur, ta parole ce matin, et que tous et chacun, nous puissions sortir d'ici grandis, parce que nous aurons rencontré, et, Seigneur, nous t'aurons rencontré, nous aurons l'assurance, Seigneur, que tu as parlé à nos cœurs. Et c'est en Jésus que je te prie, Père. Amen. Alors, au chapitre, le verset 20, le seul mot qu'on ne regardera pas ce matin, en fait, c'est la dernière phrase. « Cet homme est notre parent. » Lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous un droit de rachat. Il y a tellement de choses à dire sur ce mot « rachat ».« Rachat » pour « rédempteur », ainsi de suite. On prendra un message complet la semaine dernière pour en parler. Je pense que c'est important. Souvent, quand on dit qu'on a été racheté par Jésus-Christ, à partir du Nouveau Testament, ce n'est pas nécessairement clair, mais quand on a le contexte de l'Ancien Testament, qu'est-ce que la loi prévoyait? Quelles étaient les règles pour que quelqu'un puisse être racheté? Eh bien, on s'aperçoit finalement que les règles étaient autrement sévères pour que Jésus puisse être qualifié, être trouvé digne de nous racheter en tant que pécheur et faire de nous les enfants de Dieu. Je pense que ça vaut vraiment la peine non seulement de passer 5 minutes là-dessus, mais de vraiment prendre un temps pour examiner ce passage la semaine prochaine. Et aussi notre parent, le mot hébreu ici est beaucoup plus fort que le mot français. C'est pas juste parent, mais c'est notre proche parent. Et Christ a dû devenir un être humain, quelqu'un de notre race. Il est maintenant notre frère pour que nous puissions être rachetés. Et il y a toute tout ce parallèle qui se fait entre l'ancien et le nouveau. Et la semaine prochaine, on regardera ça. Mais ce matin, ce que j'aimerais m'arrêter, c'est les versets surtout 17, la première partie du verset 20. Alors, je suis certain que plusieurs connaissent le cantique écrit par Johnson Outman, « Compte les bienfaits de Dieu ». Et pendant le grand réveil de Welsh au pays de Galles en 1904, c'est un des cantiques qui se chantait à toutes les réunions de réveil. Les paroles du refrain sont les suivantes, les plus vieilles personnes, non. Je dirais ceux et celles qui fréquentent l'Église depuis ici un certain temps connaissent très bien ce cantique. « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. » Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. C'est les ailes de la foi, le cantique numéro 45. Je suis persuadé qu'en retournant chez elle, Ruth doit avoir compté le nombre de bénédictions qu'elle avait reçues ce jour-là. Tôt le matin, elle avait quitté la maison inquiète et à la fin de la journée, elle retournait en adorant le Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça. Vous partez de la maison le matin, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, vous êtes inquiète, et puis le soir, vous rentrez à la maison en louant, en adorant le Seigneur. J'espère que ça vous est arrivé dans votre vie. Parce que tout au long de la journée, peu importe ce qui nous arrive, Dieu vise quand même à bénir ses enfants. Elle avait trouvé un champ de l'année, espérant trouver quelque chose à manger. Et elle avait quitté ce champ le cœur joyeux en emportant beaucoup avec elle. Elle avait commencé la journée l'estomac vide, et à la fin de la journée, non seulement son estomac était plein, mais son cœur était rempli de joie et d'espérance. J'ai déjà entendu des gens dire « Tout ce que je veux, ce sont les miettes qui tombent de la table du maître. » Je suppose que c'est pour cette raison que nous avons un certain nombre de chrétiens qui se plaignent constamment. Les miettes, c'est pour les chiens, c'est pas pour les enfants de Dieu. Les miettes, ce sont des restants. Et on voit l'assurance dans notre cœur que Dieu ne veut pas nous bénir avec des restants. Dieu garde le meilleur pour ses enfants. Amen. C'est important. Mes amis, Dieu n'est pas un Dieu qui se contente de vouloir boucher des trous ou de coudre des plaies. Il est pour nous, dit le psalmiste, le Dieu des délivrances, celui qui sauve, auquel s'ajoute cette promesse, celui qui est fidèle et comblé de bénédictions. Comblé de bénédictions. Pas, il va avoir une bénédiction de temps en temps, comblé de bénédictions. Sur le chemin qui l'a conduit à la maison, j'imagine la joie qui débordait dans son cœur de savoir qu'elle avait de la nourriture pour plusieurs semaines. Rappelez-vous leur situation, deux veuves qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants et qui, au niveau de la loi, sont très limitées pour qu'on réponde à leurs besoins. Et là, cette femme, eh bien, elle passe une journée à de l'année. Et là, elle est accueillie par sa belle-mère. Elle rentre à la maison et Naomi lui dit, nous allons pouvoir manger à notre faim ce soir. Regarde, pardon, Ruth lui dit, Naomi, nous allons pouvoir manger à satiété ce soir. Regarde ce que j'ai récolté durant la journée. Elle ouvre le sac et à l'intérieur, il n'y a pas juste une poignée de grains ramassés dans le coin d'un champ. Parce que c'est ce qu'on ramassait à l'époque. Une poignée. Non, elle ouvre le sac, il y a 30 kilos. Un effa, c'est 30 kilos. 30 kilos de grains, extraordinaire, qui pouvait être broyé, transformé en pain. 30 kilos, on ne peut pas s'imaginer ce que ça représente pour des veuves. 30 kilos! Non seulement Ruth a apporté tout cet or, mais elle a aussi apporté ce que Boaz lui a permis d'apporter, les restes de son repas qu'elle avait partagé avec Boaz et qu'elle va donner à sa belle-mère. Essayez d'imaginer, frères et sœurs, pendant quelques secondes, la scène. Cela ressemble quelque peu aux parents. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, j'ai pris l'exemple de chez moi. Hein? Lorsque vous rentrez à la maison avec la commande d'épicerie, les enfants ont entendu l'auto arriver, puis qu'est-ce qui arrive? Ils courent, tous pour voir ce qu'il y a dans les sachets, dans les sacs. Est-ce que on est tout seul comme ça, s'il y en a d'autres? Oui, OK. Alors, qu'il y en a un qui va dire, mais avez-vous acheté mes céréales préférées? Hein? L'autre va dire, avez-vous acheté la sorte de biscuit que j'aime? Et l'autre va dire, bon, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Et ainsi de suite, quoi. Ils ne peuvent s'empêcher de fouiller dans les sacs que vous venez de déposer sur le comptoir ou sur la table de cuisine. Je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec Naomi et Ruth. Elles se sont assises, elles ont contemplé ce qu'elles auraient à manger pendant plusieurs semaines. Frères et sœurs, c'est vrai qu'on travaille pour acheter notre nourriture. Et combien de fois on oublie de remercier Dieu pour cette bénédiction de pouvoir manger jour après jour, parce que ça demeure quand même une bénédiction, ça demeure quand même une grâce. On a un système à l'extérieur, l'aide sociale, le chômage, les sécurités d'emploi, de moins en moins, qui nous amène à oublier que chaque repas qu'on prend jour après jour, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Et quand on va manger dans certains restaurants, si on n'attrape pas une diarrhée ou si on n'est pas empoisonné, c'est une grâce que le Seigneur nous fait. On oublie toutes les bénédictions qu'on a. Nous avons tous besoin de nous asseoir de temps en temps pour compter les bénédictions que nous avons reçues de Dieu, afin de nous rappeler ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Si nous commencions à noter tout ce que Dieu a fait pour nous, nous aurions besoin d'une calculatrice pour compter les bénédictions que Dieu a déversées dans nos vies. Et cela ne nous prendrait pas tellement de temps à réaliser que nous avons été comblés de grandes bénédictions spirituelles. Au point où nous dirons comme Naomi, « Béni soit l'Éternel qui se montre miséricordieux, qui se montre bon pour les vivants comme il le fait pour ceux qui sont morts. » On est tellement peu habitué dans notre monde dans lequel on vit aujourd'hui à remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous donne jour après jour, que si je vous donnais un papier ce matin et que je vous demandais d'écrire simplement 5 bénédictions que Dieu a déversées dans vos vies hier, je ne sais pas si on trouverait les 5 bénédictions avec facilité. Et la première, c'est son salut. C'est une grâce extraordinaire. Ça, c'est la grande bénédiction spirituelle que Dieu nous a donnée. La deuxième, pour certains, la grâce, c'est que vous êtes en santé. une troisième. Vous avez mangé hier. La plupart, trois repas, d'autres encore plus. Vos enfants sont en santé dans votre foyer. Dieu, cinquièmement, Dieu a préservé la vie de vos enfants hier contre toutes sortes d'influences du monde, vos jeunes enfants. On est tellement dans une routine qu'on oublie que chaque bénédiction, c'est une grâce que Dieu nous accorde. La santé, ce n'est pas un droit acquis, c'est une grâce. Il n'y a que notre corps qui n'a pas encore été racheté. On est toujours dans ce corps mortel qui est soumis à tout ce que le péché peut faire à l'intérieur de ce corps. Un jour, nous recevrons ce corps glorifié, ce corps immortel, comme nous dit Paul, incorruptible. Dans nous avons la santé. C'est une grâce que Dieu nous fait. Il suffit d'aller visiter des gens à l'hôpital, de passer dans les couloirs d'hôpitaux pour remercier Dieu jusqu'à la chambre d'hôpital, remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être en santé. C'est pas réservé juste aux vieux d'être malades. Il y a des enfants, il y a des bébés qui ont des cancers. Il y a des bébés qui sont malades. Et c'est pas facile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Pour ceux qui ont une vision erronée de qui est la personne de Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas juste un nom pour nous qui sommes nés de nouveau. Dieu, c'est une personne. Et j'espère que pour vous, qui ne vivez pas une religion, mais une relation avec Dieu, que Dieu n'est pas seulement un nom que vous accrochez le matin à vos prières, mais qu'il est une personne avec qui vous avez une relation intime avec lui. Amen. Combien Dieu nous enrichit à travers les bénédictions qu'il déverse dans nos vies. Ce fut une journée inoubliable dans la vie de Ruth, car elle fut richement bénie. Et de quelle manière ces bénédictions ont-elles enrichi la vie de Ruth? Et de quelle manière les bénédictions de Ruth, enrichissent-elles notre vie? Premièrement, nous voyons que les bénédictions de Dieu augmentent notre connaissance de Dieu. On reçoit le salut, on a cette bénédiction spirituelle, mais tout le reste de ce que Dieu peut faire dans nos vies souvent, c'est ignoré, c'est pas nécessairement prêché. Et ici, à travers tout ce qu'elle a vécu ce jour-là, Ruth a grandi dans sa connaissance de Dieu. Elle était en train d'apprendre ce que Dieu pouvait faire et ce à quoi il ressemblait. Et frères et sœurs, à travers les bénédictions que nous recevons de lui dans nos vies, nous apprenons jusqu'à quel point il est digne de confiance. L'auteur des Proverbes nous dit, « Dieu, tu es digne de confiance. » Dans ce qu'il dit, jusqu'à quel point ses voies sont déterminantes pour nos vies et jusqu'à quel point ses œuvres sont puissantes. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Revenons à cette journée particulière de Ruth. Vécu par Ruth. Permettez-moi de vous rappeler ce qui est arrivé et relever ce que nous enseigne sur Dieu les bénédictions que Ruth a reçues ce jour-là. On va reculer un petit peu, simplement pour regarder ensemble ce que j'ai pas pu partager dans les autres semaines. Mais au verset 3, il est écrit ceci. « Elle alla de l'année dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui est de la famille d'Élimélec. Ce qui lui est arrivé n'était pas le fruit du hasard, parce que Dieu veillait sur elle. » Frères et sœurs, quand on vit des choses dans nos vies, jamais on doit penser que c'est le fruit du hasard. Jamais on doit penser que Dieu nous en veut plus qu'un autre. Jamais on doit penser que Dieu nous aime moins qu'un autre. On est à l'école de la vie de Dieu. Vous vous souvenez ce qu'on a projeté ici après la semaine de jeûne et de prière? La personne, là, le jeune qui avait plus de bras, qui est venu au monde sans bras, sans jambes, qui trouve le moyen de louer le Seigneur, qui trouve le moyen d'adorer le Seigneur, qui trouve le moyen de faire le tour du monde, c'est un Australien qui trouve le moyen de faire le tour du monde pour louer le Seigneur de ce que le Seigneur fait dans sa vie, et qui trouve le moyen de dire, Seigneur, merci pour le corps que tu m'as donné. Hey! Une connaissance suffisamment profonde de Dieu pour pouvoir le louer et l'adorer avec des membres qui lui manquent. Je vous en parle parce qu'hier, j'ai vu une vidéo de lui. Il est allé nager au milieu des requins. Et la presse internationale en a fait tout un plat. Il est allé nager autour des requins, sans être attaqué rien. Mais il est sorti de l'eau. Quand il est sorti de l'eau, on était surpris de voir qu'il n'y avait pas de bras, qu'il n'y avait pas de membres. Il est sorti de l'eau avec le grand sourire. Et puis, cette foi en Dieu qui est communicative auprès de ceux et celles qui le fréquentent. Elle a appris ce jour-là que Dieu était en contrôle des événements et qu'il agissait de façon à pourvoir à tous ses besoins. Elle a appris que Dieu a un plan et un but pour sa vie et ce qu'il permet et qu'il nous permet, pardon, d'être participants de ce plan pour augmenter notre connaissance de lui et réaliser combien il est un Dieu puissant, capable d'honorer ses promesses parce qu'il est digne de confiance. Et je reviens à l'image que j'ai prise la semaine dernière, l'exemple de Joseph. À travers tout ce que Joseph a vécu, c'est sa confiance en Dieu qui a augmenté. Et à travers tout ce que Joseph a vécu, eh bien, les événements qu'il a traversés n'étaient pas le fruit du hasard, puisque Dieu le préparait à prendre le trône, à partager le trône avec le pharaon d'Égypte, encore une fois pour faire de la place à son peuple. Frères et sœurs, on vit à la seconde, à la minute, à l'heure. On vit à la journée, on vit à l'année. Dieu voyage dans l'éternité. Dieu connaît toutes choses d'avance. Et on peut avoir la certitude que c'est le meilleur qu'il a en réserve pour chacun de nous. Même quand on passe par des moments difficiles. Je suis en train de dire que quand je dis que Dieu permet, je suis pas en train de dire que Dieu veut. C'est deux choses différentes. Le verbe vouloir et permettre, c'est deux choses différentes. Quand je dis que Dieu permet, c'est que Dieu garde le contrôle. Souvent, les bénédictions que nous recevons servent à nous enseigner que Dieu est fidèle à ses promesses et que ce qu'il promet, il l'accomplit. Les bénédictions de Dieu, je le répète, sont souvent une école de vie à travers laquelle nous apprenons que Dieu a un plan et un but pour notre vie et qu'il agit en conséquence. Voilà pourquoi nous ne devons pas focaliser nos yeux sur des grands ministères, sur un tel qui est appelé à tel ministère, sur un autre qui est appelé à tel ministère. C'est nous, ce que nous vivons avec Dieu et ce que Dieu a préparé pour nous qui est important. Ceux qui sont appelés dans d'autres choses, ils vont avoir leur lot de problèmes, ils vont avoir leur lot d'épreuves, ils vont avoir leur lot de persécutions. Mais à travers ce que vous allez vivre, et c'est peut-être des choses différentes de ce que l'autre va vivre dans son ministère, eh bien, Dieu va vous former parce que Dieu a un plan pour vous et Dieu a un but pour votre vie. Elle a aussi appris quelque chose, deuxièmement, verset 14, quelque chose sur la provision de Dieu. Il est écrit au verset 14 qu'au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Ensuite, il est écrit ceci au verset 17, qu'elle glana dans le champ jusqu'au soir et qu'elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y avait environ une trentaine de kilos de grains qu'elle avait ramassés. Elle a eu le ventre rempli à l'heure du midi et elle avait un panier plein à la fin de la journée. Et dans tout ça, eh bien, elle a appris ce que Paul nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, que Dieu pourvoirait à tous ses besoins selon sa magnifique richesse. Amen. Frères et sœurs, Dieu connaît vos besoins. Au-delà de ce qu'on peut savoir, nous, de ce qu'on a besoin. Et les besoins qu'il nous accorde, les besoins auxquels il répond, ça a toujours pour but de le glorifier. Toujours. Toujours. Et là, je me souviens lorsque Dieu m'a appelé à commencer des études à la Faculté de théologie baptiste de Montréal. Je savais que je devais y aller par la foi et que je devais compter sur Dieu pour assurer mes fins de mois. Il y avait un cantique qui me venait en tête et c'était celui que j'ai dit au tout début. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tous tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Je peux aujourd'hui témoigner que Dieu a pourvu à tout ce dont j'avais besoin. Et Dieu nous a enseigné pendant cette période que non seulement il pouvait pourvoir, mais qu'il pourvoirait à tous nos besoins en tout temps. Les bénédictions de Dieu dans notre vie augmentent notre connaissance de lui, mais surtout notre foi en lui. Et moi, j'aime bien relire la vie de George Muller, parce que Dieu, pour tester la mesure de notre foi, il s'amuse toujours à répondre juste à la limite. Toujours, toujours, toujours. Quand George Muller est en train de nourrir 1200 orphelins dans son orphelinat, il ne serait pas capable aujourd'hui de se faire arrêter. Mais on est dans une autre époque avec George Muller, on est au 18e. Et 1200 orphelinés comptent uniquement sur la grâce de Dieu pour nourrir ses enfants. On vient l'avertir le soir qu'il n'y a rien à manger, à offrir au déjeuner pour les enfants le lendemain matin. Et qu'est-ce qu'il dit? À chaque jour suffit sa peine. Dieu est fidèle, Dieu pourvoira. Le lendemain matin, il y a un boulanger qui frappe à la porte. Il dit, écoutez, demandez-moi pas pourquoi. Il y a une voix qui m'a dit de rester debout toute la nuit et de faire 400 pains pour votre orphelinat. Il est venu porter 400 pains. Il y a le laitier qui passe avec une charrette. Et finalement, il y a une roue qui brise. Et il n'y a pas de réfrigérateur dans cette charrette-là à l'époque. Et là, il doit sortir le lait pour être capable de réparer la roue. Et ça va prendre tellement de temps qu'il va perdre son lait. Il va frapper à la porte de l'orphelinat. Il dit, est-ce que vous voulez prendre tout mon lait, sinon je vais le perdre et je dois réparer, j'ai besoin d'en débarrasser pour réparer ma route et continuer, réparer ma roue et continuer mon chemin. Et Muller, il y en a, mais il y en a régulièrement, quoi, des choses comme ça à vous raconter. Et il dit que dans son journal, Dieu a répondu, il a pris la date où il demandait à Dieu, il faisait une prière, et la date que Dieu exaucait, et il dit, Dieu a répondu à plus de 10 000 de mes prières. 10 000! Incroyable! Incroyable! Dieu veut augmenter la mesure de notre foi à travers ce que nous vivons. Il a commencé à évangéliser, il a quitté les orphelinats à 68 ans, il a commencé à évangéliser à travers le monde, il est venu au Québec. Il avait un épais brouillard sur le fleuve Saint-Laurent, le bateau était incapable d'avancer. Et il devait être tel jour, un dimanche, il devait prêcher à Québec. Et on était le samedi, il est allé voir le capitaine du bateau, et le capitaine a dit, « Moi, je bouge pas, M. Muller, il est impossible que vous puissiez penser d'être demain à Québec avec le brouillard qu'il y a. » Il s'est mis à genoux, il a prié. Et le capitaine, qui ne croyait pas plus qu'il faut, il dit, « Quand j'ai entendu Georges Muller prier, c'est comme si j'entendais un enfant prier. » Et Muller a dit, « Vous pouvez mettre le bateau en marche. » Il a dit, « Non. » Muller, il dit, « Ben oui, sortez. » Il dit, « Dieu a déjà répondu à ma prière, le brouillard est parti. » Il dit, « Dieu m'a donné rendez-vous à Québec dimanche. » Et Dieu honore toujours les rendez-vous qu'il donne. Le capitaine est sorti, effectivement, il n'y a plus de brouillard. Et Muller, le dimanche soir, a pu prêcher à Québec. Et ça fortifie votre foi, ça. Les saints chrétiens racontaient ça aujourd'hui. Je ne sais pas s'il passe ça pour quelqu'un qui a une grande foi ou pour un cinglé ou un illuminé dans le monde dans lequel on vit, dans le monde scientifique dans lequel on vit. Muller peut raconter, qu'en racontant, raconter. Maintenant, il ne faut pas oublier que Muller aussi, c'est un don spirituel, avait reçu le don de la foi. Ça, c'est très important de ne pas oublier ça aussi. Dieu donne des dons à qui il veut, et lui, il avait reçu ce don particulier. Les bénédictions de Dieu inspirent notre reconnaissance envers lui. Il est écrit au verset 10 qu'elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, « Comment ai-je pu trouver grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? » Et j'en avais parlé vaguement, mais quand on a vu ce verset-là, on peut se poser la même question jour après jour au Seigneur, « Quelle bénédiction tu m'as donnée, quoi, de me sauver? Quelle bénédiction! Comment j'ai pu trouver grâce à tes yeux? » Moi qui étais étranger à tes promesses, Seigneur. Ah! Frère, c'est ça, c'est une des plus grandes bénédictions qu'on peut recevoir du Seigneur, quoi. Et on doit la louer jour après jour pour son salut. J'étais un étranger, tu as fait de moi un membre de ta famille, quoi. Et tu n'as pas juste fait un membre de ta famille, tu as fait de moi une nouvelle race. Je fais partie de la race élue, dit l'apôtre Pierre, quoi. Et tout ce que tu as donné à Jésus-Christ, et la Bible nous dit que tout donné à Jésus, tu fais de moi le co-héritier. Ce que tu as donné à Jésus, Seigneur, tu vas me le donner à moi. C'est incroyable. Hey! Les bénédictions qu'elle a vécues l'ont poussé à manifester un esprit d'humilité, de gratitude envers Dieu. Le cœur confondu et comblé est toujours un cœur qui déborde de reconnaissance pour Dieu. J'ai lu une fois une définition pratique du chrétien qui, je pense, est excellente. Un chrétien est quelqu'un qui ne passe pas son temps à consulter son livret de banque pour voir jusqu'à quel point il est riche. Nous sommes tellement bénis par Dieu que notre richesse ne se traduit pas dans notre carnet de banque, mais dans le livre de vie de Dieu. Frères et sœurs, Dieu déverse jour après jour ses bénédictions dans nos vies, et chaque journée devrait être une journée de remerciement. Vous savez, Rockefeller, le premier qui a fait la fortune, de la famille Rockefeller aux États-Unis, c'était un homme qui était milliardaire, et il n'était pas chrétien. Mais il se levait le matin, c'était pas sa Bible qu'il regardait, c'était le journal de Wall Street. Et les milliards qu'il avait investis à la bourse, ça lui empêchait de dormir les nuits parce qu'il avait peur d'avoir perdu un centime durant la nuit sur les valeurs de la bourse. À tel point qu'avec tous ces milliards, il était incapable de manger autre chose que des pots de bébé, des pots de nourriture en purée de bébé. Ça doit être frustrant pour un milliardaire qui peut se payer un gros steak, de se taper du yaourt, et des pots de bébé en purée. Parce qu'il gardait tout pour lui, quoi. Tout pour lui, il en voulait encore davantage. Et il était détesté parce qu'il siphonnait les plus pauvres que lui, quoi. Il a fait exprès pour stocker du pétrole dans des wagons-citernes sur les rails, pour faire monter, exploser les prix du cours du pétrole, pour faire encore plus de profit. Tout le monde cherchait à vouloir l'assassiner, devait payer des gens, des gardes du corps pour le protéger. Et quand il a compris, quand il a entendu l'Évangile et qu'il a compris que ce qu'il avait reçu, il devait le partager, eh bien, les docteurs le condamnaient à 53 ans. On disait qu'il ne vivrait pas plus que 6 mois. Et quand il a compris ça, eh bien, il a vécu jusqu'à 98 ans. Il a ouvert l'hôpital Rockefeller. Il y a des œuvres incroyables aux États-Unis qui portent le nom de Rockefeller. Il a déversé sa fortune dans ces œuvres-là pour venir faire du bien aux gens. L'Université Rockefeller pour venir en aide aux plus pauvres. L'hôpital Rockefeller pour aider les gens. Oui, il n'a pas gardé tout pour lui. Quand il a compris ça, eh bien, il a été non seulement Dieu l'a béni, continue à le bénir, mais il a été une source de bénédiction pour les autres. Au verset 17, nous voyons Ruth retournant à la maison avec 30 kilos d'orge. Que va-t-elle faire avec toute cette nourriture? Que devrions-nous faire, frères et sœurs, avec toutes les bénédictions que nous expérimentons et que nous apprécions? Ruth a réalisé, et il devra en être de même pour nous, qu'elle était comblée au-delà de ce qu'elle a de l'année. Lorsque nous réfléchissons sur les bénédictions que nous avons reçues, nous avons besoin de nous rappeler que les bénédictions que nous avons reçues dans nos vies sont quelque chose qui sont visibles aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, quand les gens nous rencontrent, est-ce qu'ils voient que nous sommes des gens qui sommes bénis par Dieu? À travers nos paroles, les gens se plaignent des gouvernements. Quand on les rencontre, est-ce qu'on plaint, on se plaint nous aussi des gouvernements? Est-ce qu'on dit que ce sont tous des pourris, des voleurs, des bandits? Est-ce qu'on crie, allez, envoie la guerre, ça va faire du bien? Est-ce qu'on est un sujet de bénédiction face aux gens qu'on rencontre, aux gens qui nous rencontrent, frères et sœurs? Ruth a réalisé. Mais Naomi a constaté de ses propres yeux ce que Ruth avait de l'année parce que les bénédictions de Dieu dans la vie de Ruth étaient évidentes. Elle dit au verset 19, « Où as-tu de l'année aujourd'hui et où as-tu te réveillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Dieu l'avait béni et c'était tellement évident. Naomi a vu les bénédictions dans la vie de Ruth et Ruth va rendre témoignage des bénédictions qu'elle a reçues de Boaz. Nous devons, frères et sœurs, être un témoin de notre Seigneur et de tout ce qu'il a fait pour nous. Chers amis, est-ce que les gens voient les bénédictions de Dieu dans nos vies? Peuvent-ils, à travers nos vies, voir qu'il est manifeste que Dieu est en train de faire quelque chose? Pierre affirme quelque chose d'intéressant dans sa première épître au chapitre 2:9. Vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du roi, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu, qui vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Bon, il y en a, quand on dit le mot évangélisation, c'est indigeste pour eux, mais la seule chose pour laquelle on a été sauvés, parce que c'est la plus grande bénédiction, c'est de le partager aux autres. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une méthode d'évangélisation, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot évangélisation, mais la seule des façons que vous allez démontrer aux gens que vous êtes bénis par le Seigneur, c'est de partager la bénédiction du salut que vous avez reçu en Jésus-Christ. Et vous n'êtes pas obligé d'être des évangélistes pour ça. Et ça, c'est la principale raison pour laquelle l'Église a été mise sur pied. C'est la principale raison pour laquelle Christ est mort. Je suis la lumière du monde, il est parti, vous êtes maintenant la lumière du monde. Le message que j'ai transmis au monde, c'est vous maintenant qui allez le transmettre. Et vous allez être haïs comme ils m'ont haï. Pourquoi? Parce que vous allez mettre en lumière à travers l'Évangile ce qu'ils font de méchant, de mauvais dans les ténèbres. Frères et sœurs, là où il faut s'inquiéter, c'est pas quand nos gouvernements sont pourris. C'est quand l'Église de Jésus-Christ est tolérée et acceptée par le monde dans lequel on vit. Là, on doit s'inquiéter, parce qu'il y a un gros problème. Il y a un problème dans le message. John Woodrow, qui a un article, je ne dirais pas le nom du journal, dans un journal de France, a fait le tour des églises, il a fait un sondage, il a fait le tour pendant un an. Il a écrit un article, il a écrit ceci, c'est pas un chrétien, hein. Il a dit ceci, si l'Église de Jésus-Christ ne change pas son message, il va fermer ses portes en France. Le message que nous entendons dans l'Église n'est pas différent de celui qu'on entend dans le monde. On veut plaire aux gens. Plaire aux gens. Frères et sœurs, Ruth ici. Pierre affirme quelque chose d'intéressant dans sa première épître au chapitre 2:9. Ils ont été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous a appelé à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Frères et sœurs, quand on comprend, quand on réalise qu'on était perdu, d'abord, il faut réaliser qu'on est perdu. Après, quand on a réalisé qu'on était perdu, eh bien, on voit la grâce de Dieu, frères et sœurs. On savait même pas qu'on était dans l'obscurité. On pensait qu'on était dans le vrai. C'est ça le pire. On pensait qu'on était dans le vrai. Que tout le monde avait tort et que nous, qu'on avait raison. Hey, c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous a fait. De passer des ténèbres à la lumière. Qu'est-ce que Pierre dit ici? Vous avez été appelés, vous avez été choisis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu. Et le mot grec pour proclamer ici, utilisé, eh bien, ça décrit une annonce publicitaire expliquant qui est Dieu et ce qu'il peut faire dans la vie des gens. N'est-ce pas ce qu'était Ruth ici à son époque? Une réclame, un panneau publicitaire de qui était Dieu et de ce qu'il avait fait dans sa vie. Frères et sœurs, nous devons nous rappeler que les bénédictions dans nos vies doivent aussi être partagées avec les autres. J'ai partagé un point de Müller. J'ai partagé aussi Rockefeller aux États-Unis. Mais regardez au verset 28 ce qui est écrit ici. Elle emporta, en rentrant dans la ville, son sac, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Ruth partagea avec Naomi ce avec quoi elle avait été bénie. Je suis persuadé que malgré le poids du sac d'orge qu'elle transportait, tout près de 30 kilos, Ruth a pratiquement couru en pensant à tout ce qu'elle partagerait avec sa belle-mère. Rappelez-vous le jeune homme, frères et sœurs, tournez avec moi dans Luc chapitre 5, versets 18 à 20. Rappelez-vous le jeune homme tourmenté par des esprits mauvais dans Luc 5, 18, 20. On va lire les deux versets. Luc 5, 18, 20. Au moment où Jésus montait dans la barque, l'homme guéri lui demanda de pouvoir rester avec lui. Il avait été guéri de démons. Et là, il demande à Jésus de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Spécial, hein? Jésus dit non, tu n'as pas à me suivre. Mais il dit, retourne chez toi dans ta famille et raconte-leur. Et le mot grec ici, c'est partage. Partage tout ce que le Seigneur a fait dans sa bonté pour toi, dans sa miséricorde pour toi. L'homme s'en alla donc et se mit à annoncer dans la région des 10 villes tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous ceux qui l'entendirent furent remplis d'étonnement. Frères et sœurs, les bénédictions sont données par Dieu à l'homme, transmises par l'homme à son prochain, pour ensuite retourner à Dieu, et le cycle recommence, et ainsi de suite. Frères et sœurs, tout ce qu'il a fait, il a partagé ce qu'il avait reçu de Dieu. Il a reçu une bénédiction de la part du Seigneur, une guérison divine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans les villes, et il va partager ce qu'il a reçu du Seigneur pour être un sujet de bénédiction pour les autres. Ah, j'ai mis Luc, moi. OK. Désolé. Marc 5, 18, 20. Beaucoup de chrétiens ressemblent à la mer morte, ainsi nommée à cause de la quantité inhabituelle de sel que nous retrouvons dans l'eau. La vie est à peu près inexistante dans cette eau à cause de la quantité de sel qui s'y trouve. Une des raisons pourquoi son eau est si salée, c'est qu'il y a 6 arrivées principales d'eau qui se déversent dans la mer morte, mais aucune sortie existe pour partager cette eau qu'elle reçoit. Elle est toujours en train de recevoir, mais ne redistribue jamais ce qu'elle reçoit. Quelqu'un a dit que servir les gens correspond à payer les intérêts d'une vie qui nous a été prêtée. Nos bénédictions sont un prêt que Dieu nous a avancé pour être partagé avec les autres. Tout ce que nous avons de l'année n'est pas destiné à être entreposé dans des greniers, mais à être partagé avec les autres. Benjamin Franklin, connaissez? Connaissez le poêle Franklin ici, vous? Ah, c'est les poêles à combustion lente, hein? C'est le style de poêle comme ça, quoi. Alors, Franklin, l'inventeur, a entre autres inventé le poêle Franklin, il a inventé les lunettes, il a inventé l'harmonica. Eh bien, il reçut un jour une lettre le remerciant pour les services qu'il a rendus à la société. Il répondit ceci. « Concernant la bonté que vous soulignez dans votre lettre, j'aurais aimé vous offrir encore plus que je ne l'ai fait dans le passé. Et si cela avait été le cas, les seuls remerciements que j'aurais souhaité recevoir, c'est d'avoir été toujours prêt à servir mon prochain. En ce qui me concerne, lorsque je suis employé à servir les autres, je ne me considère pas en train d'accorder des faveurs, mais en rembourser ce que je dois aux autres. » Frères et sœurs, nous expérimentons les bénédictions de Dieu et nous sommes appelés à élargir le champ d'action des bénédictions que nous recevons. Nous puisons dans les bénédictions et nous les redistribuons. Nous glanons et nous sommes appelés à donner ce que nous glanons. Il y a des bénédictions, nous dit les proverbes, sur la tête du juste. Frères et sœurs, nous sommes bénis et nous sommes appelés à bénir parce que nos bénédictions viennent de la part de Dieu. Amen.
Oui. Oui.
Dernièrement, troisièmement, les bénédictions que nous recevons deviennent en fait un instrument dans les mains de Dieu pour bénir les autres. Frères et sœurs, il y a des fois, je fais des visites aux gens, et ils me disent « Merci, pasteur, d'être venu. » Hier, je suis allé voir Stacha. Hein? Elle n'est pas là, elle n'est pas lui dire ce que je vais vous dire. Mais je suis allé voir Stacha. Et puis, j'ai pris un temps avec elle. On est passé trois quarts d'heure ensemble, une heure. Et puis, elle me dit « Oh, pasteur, merci d'être venu. Vous m'avez fait vraiment du bien. » J'ai dit « Stacha, je ne sais pas si moi, je t'ai fait du bien, mais toi, tu m'as fait vraiment du bien, quoi, à travers tout ce que tu m'as dit. C'est un sujet de bénédiction pour moi, quoi. » Et frères et sœurs, c'est un besoin qu'on a de se rencontrer les uns les autres pour être un sujet de bénédiction, les uns vis-à-vis des autres. Amen. Nous entendons souvent des gens dire « J'aimerais que Dieu m'utilise ». Et une façon que Dieu va vous utiliser, c'est à travers ce qu'il a déjà fait pour vous. Remarquez de quelle façon Dieu a utilisé les bénédictions qu'il a données à Ruth pour que Ruth soit à son tour bénie. Remarquez comment il prend nos bénédictions et les utilise dans la vie des autres. Premièrement, il utilise les bénédictions pour que nous puissions encourager ceux dont la foi est faible. Verset 20 ici. Lorsque Naomi est revenue avec sa belle-fille à Bethléem, elle a dit, rappelez-vous, hein, verset 1, chapitre 1, verset 20. Elle dit, ne m'appelez plus moi Naomi, appelez-moi Mara, c'est-à-dire amertume. Elle affirmait que le Seigneur l'avait ramenée à Bethléem les mains et le cœur vides. Elle avait perdu son mari, elle avait perdu ses deux fils, elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Elle se considérait elle-même non seulement comme étant vivante, mais aussi comme étant morte. Mais lorsque Ruth franchit la porte de la maison avec tout cet orge, c'était comme si elle disait, « Dieu ne m'a pas oublié. Dieu, il m'aime toujours, et il prend soin de moi. » Elle avait une foi qui était quasi inexistante par rapport à tout ce qu'elle avait vécu. Et pourtant, elle fut fortifiée dans cette foi si faible par les bénédictions qu'elle recevait à travers Ruth. Et cet esprit d'amertume qui l'avait amenée, qu'il avait accompagné jusqu'à Bethléem, eh bien, cet esprit d'amertume qui l'animait envers Dieu est remplacé par un esprit de douceur parce que lorsqu'elle voit toute cette nourriture, elle réalise que seul le Seigneur a pu accomplir une telle chose dans la vie de Ruth. Ruth avait besoin dans sa vie et Dieu a rencontré ce besoin. Frères et sœurs, vous avez peut-être un besoin dans votre vie ce matin. Remettez ce besoin entre les mains du Seigneur. Et je suis persuadé que Dieu va répondre à ce besoin. Que ce soit directement, que ce soit à travers un frère, que ce soit à travers un événement, Dieu va vous donner une réponse. Parce que Dieu répond aux prières de ses enfants. Dieu répond aux besoins de ses enfants, c'est une promesse. Lorsque Ruth franchit la porte de cette maison avec toute cette orge, elle a réalisé que Dieu ne l'avait pas oublié, que la bénédiction n'était pas seulement pour Ruth, mais aussi pour elle. Frères et sœurs, c'est incroyable. Ce petit peu de choses l'a ranimé sa foi envers son Dieu. À travers cela, Dieu a rencontré son besoin, il a rencontré le besoin de Naomi. Nous avons des besoins dans notre vie. Dieu désire rencontrer nos besoins aujourd'hui, comme il l'a fait dans le passé. Il est possible que Dieu veuille prendre ce qu'il a fait pour nous afin d'aider les autres qui sont dans le besoin. Vous qui avez perdu un être cher, vous qui avez des enfants indisciplinés, qui êtes aux prises avec un cancer, une autre maladie, rappelez-vous que Dieu peut vous utiliser pour être une bénédiction pour les autres. Vous pouvez partager ce que vous avez appris et reçu du Seigneur à travers ces événements vécus. Nous voyons également, et je termine avec ça ici ce matin, que Dieu utilise nos bénédictions pour établir en nous un esprit d'adoration, pour développer en nous cet esprit d'adoration. Verset 20, Naomi, elle vit presque rien avec son Dieu, et qu'est-ce qu'elle dit? Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts, comme il l'est pour moi. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous un droit de rachat. Naomi, elle est en train de louer le Seigneur. Sa faible foi est fortifiée et elle adore l'Éternel. Dieu va utiliser les bénédictions de Ruth pour encourager une foi faible et établir un esprit d'adoration dans le cœur de Naomi. Ce que nous avons vécu dans le passé avec Dieu peut n'être juste ce que quelqu'un autour de nous a besoin d'entendre ou de voir pour démarrer ou renouveler une nouvelle relation avec Dieu. Frères et sœurs, avant de tomber malade, quand j'allais voir les médecins, quand j'allais voir les malades à l'église, j'avais pas cet esprit de compassion. Je disais, oui, je vais prier pour toi. Oui, j'allais les visiter. Mais j'ai dû passer par la maladie pour être capable de me mettre à la place des malades et faire en sorte que ce ne soit plus des mots, mais j'ai cet esprit de compassion pour ceux qui sont malades. Parce que je comprends la souffrance des gens maintenant. Je comprends que même si on est chrétien, il peut y avoir toutes sortes de doutes qui puissent passer dans notre tête. Et quand on vous parle de cancer, c'est synonyme de mort. Vous ne pouvez que faire confiance à Dieu. La médecine fait ce qu'elle peut, et Dieu fait le reste. Mais vous devez avoir vous appuyer sur Dieu. J'ai rencontré des non-croyants dans les hôpitaux, dans l'aile des cancéreux. Les non-croyants qui se battent juste sur leur orgueil. Vous allez les visiter, vous voulez leur parler de Dieu. Alors moi, je faisais pas de prosélytisme, je suis un malade, je pouvais partager ce que je voulais. Et que vous disent, non, moi, j'ai pas besoin de Dieu, moi, je suis capable. J'ai de l'orgueil, je suis capable, je vais m'en sortir tout seul. Et là, le médecin passe derrière vous, puis vous dit, monsieur, je peux plus vous donner de traitement de chimio, le cancer a installé domicile dans votre corps, c'est terminé. Et mon cancérologue, il me disait, écoute, tu dis ça, un gars de 80 ans, il est tout surpris. Quoi? Il n'a pas envie de me dire, je vais mourir à mon âge. J'ai dit, monsieur, vous avez quand même 80 ans. Vous n'avez jamais pensé que vous mourriez un jour? J'avais l'impression d'avoir un gamin devant moi, quoi. Il n'a jamais pensé, cet homme-là, qu'il pourrait mourir un jour, quoi. Et là, je lui dis qu'on ne peut plus rien faire pour lui, et il est tout surpris, quoi. Il est tout surpris qu'il va mourir. Frère César, on a un Dieu extraordinaire. C'est vrai qu'on veut vivre, même si on est chrétien, on veut vivre le plus longtemps possible. Que ce soit pour nos enfants, pour autres. Mais on sait qu'un jour, ça va se terminer. Mais on sait où on va passer l'éternité. Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu l'a démontré de la Genèse, et il va le démontrer jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Dieu tient parole dans tout ce qu'il a promis. Frères et sœurs, ce matin, je vous laisse avec cette pensée. Que ferez-vous, ou que ferons-nous avec tout l'orge de bénédictions que Dieu nous a donné? Que faisons-nous avec toutes ces bénédictions que nous recevons jour après jour de la part de Dieu? Est-ce qu'on les garde pour nous, ou si on trouve le moyen de les distribuer autour de nous, à ceux qui sont dans le besoin, comme Naomi l'avait, que ce soit un besoin physique, que ce soit un besoin spirituel, que ce soit un besoin matériel. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Et rappelons-nous, le verset 19, sa belle-mère lui dit, « Où as-tu de l'année aujourd'hui et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et ce matin, on peut dire, « Béni soit Dieu qui s'est intéressé à nous dans sa grâce. » Alors qu'on ne voulait rien savoir de lui. Amen.